Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Une affiche géante qui borde la route où une jeune femme sourit, rayonnante. Une voisine, un voisin, qui ces dernières semaines a quelque chose de différent, un teint plus uniforme. Une chanteuse en vue, à qui certaines souhaiteraient ressembler. Comment comprendre ce qui se cache derrière le phénomène de la dépigmentation volontaire? Phénomène de mode, rejet de son apparence, envie esthétique. Si Priorité Santé s'intéresse à l'éclaircissement de la peau aujourd'hui, c'est pour évoquer les risques associés à cette pratique. Car les effets secondaires et les complications sont aussi nombreux que durables et peuvent, dans certains cas, avoir des conséquences extrêmement graves pour la santé. Des produits non conformes, des produits toxiques, des médicaments détournés de leur usage, avec à la clé maladies de peau, infections, risques de pathologies chroniques comme l'hypertension ou le diabète. Au-delà des explications d'ordre culturel qui poussent à souhaiter changer d'apparence, sur le plan médical, les risques de complications à eux seuls devraient convaincre d'en finir avec ces pratiques coûteuses, dangereuses. Rappelez que derrière l'appellation de produits cosmétiques, de savon, de crème hydratante, d'exfoliant, certains n'hésitent pas à mélanger des composants chimiques toxiques, à mentir sur les ingrédients, sans se soucier de la santé de celles et de ceux à qui ils promettent une beauté tout sauf naturelle. Risques et complications de la dépigmentation volontaire. Avec nous en studio, docteur Henriette Mello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue et vénérologue au Centre médical des Roseaux à Douala au Cameroun. Avec nous également, Awa Eve Sissoko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de communication digitale au sein de l'association Esprit d'Ébène. Tout à l'heure, vous nous expliquerez comment vous agissez en matière de prévention. Comprendre les enjeux culturels de la dépigmentation, nous joindrons au cours de l'émission le docteur Alain Froment. Il est médecin anthropologue au Musée de l'Homme, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. En fin d'émission, on va parler de l'opération Septembre en or, mois de mobilisation contre les cancers de l'enfant. Nous serons en ligne avec le docteur Dominique Valto-Couanet, chef du département de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Et puis, comme toujours, vos questions, vos témoignages, nous les attendons sur la page Facebook de l'émission ou à notre numéro 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Henriette Mello, il y a beaucoup de données, d'études sur ces pratiques de dépigmentation. On va expliquer le terme de volontaire. Mais est-ce que vous avez des chiffres en ce qui concerne le Cameroun où vous exercez?
Oui, au Cameroun, on n'avait pas de chiffres officiels et les dermatologues ont organisé des recherches et on a mené des études auprès des étudiants. On s'est rendu compte que plus de 25% d'étudiantes utilisaient des produits dépigmentants. Et des dermatologues ont aussi organisé des études auprès des consultants. Sur plus de 2300 consultants, on s'est rendu compte, hommes, femmes et enfants, on s'est rendu compte que 14,33% de patients utilisaient des dépigmentants, dont 20%. Plus de 20% des femmes et 5% des hommes. Et la majorité, 40%, était entre 25 et 35 ans.
Donc c'est un phénomène qui concerne beaucoup les jeunes.
Ça concerne les jeunes, oui.
Docteur Mello, on dit bien volontaire, parce que certaines personnes présentent un éclaircissement localisé qui peut être associé à des maladies de peau, ça n'a rien à voir.
Tout à fait.
Donc, par exemple, le vitiligo, il faut bien dissocier ce qui est volontaire de ce qui est involontaire.
Même des séquelles de certaines dermatoses, même des manifestations, peuvent être dépigmentées. Mais la dépigmentation, c'est toute la peau, toute la surface.
Ah ouais, Sissoko, on a justement fait cette part des choses, peut-être sur la jeunesse, peut-être en milieu urbain, peut-être sur certaines catégories de population. Est-ce qu'on a justement des indications? Est-ce qu'il y a des populations plus concernées que d'autres par le phénomène?
Alors, faut savoir que au sein de l'association Esprit d'Ébène, au cours de nos recherches,
on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme quiproquo, si je puis dire. On se focalisait énormément sur la communauté afro en France, mais à l'échelle internationale, le continent asiatique est le plus grand consommateur de produits éclaircissants. Et ensuite viennent les Amériques, avec une concentration au niveau des îles, je pense à la Jamaïque notamment, avec une très très forte proportion de la population qui s'éclaircit la peau. Et vient ensuite le continent africain sur le podium en troisième position.
Alors, il y a des considérations géographiques, sociologiques, et puis il y a aussi tout ce qui est culturel. D'ailleurs, en fonction des différents pays, eh bien, la pratique de la dépigmentation volontaire porte des noms différents. Il y a des petits noms maison. J'ai noté Tcha pour le Mali, c'est ça? Voilà, ça c'est pour le Sénégal. Au Bénin, Boudjou ou Boju, je sais pas comment on prononce. Et puis au Cameroun, alors ça m'intéresse. On dit aussi maquillage. Alors là, si on peut dire s'il y a tromperie sur la marchandise, c'est bien ça, parce que c'est tout sauf du maquillage.
Exactement. Le maquillage, c'est l'utilisation des cosmétiques pour améliorer en utilisant les fonds de teint, les rouges à lèvres, les crayons noirs. Mais maintenant, le maquillage au Cameroun et le Njansan, c'est le décapage, c'est la dépigmentation.
Avec des produits très toxiques, des dérivés de certains médicaments, voire des produits qui étaient utilisés dans l'industrie, y compris dans les pneus. Notre peau, ce ne sont pas des pneus.
Voilà. Il y a du mercure, il y a de l'hydroquinone, et il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués en mélangeant plusieurs
composantes différentes. Alors justement, à OAF Sissoko, on parle de ces composantes toxiques, car chimiques. Tout ça sous une présentation mensongère. Certains mettent en avant la carotte, l'aloe vera. Et puis avec souvent le mot bio qui arrive, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où il vient. Les personnes, quand elles utilisent ces produits, elles n'ont pas conscience de sa dangerosité?
Je pense que certaines se disent, enfin, on a un adage qui dit il faut souffrir pour être belle, et certaines se convainquent que il faut passer par ce processus-là, parce qu'elles se sont fixées un objectif, c'est briller dans la société. Après, à quel niveau, que ce soit par le mariage ou par une certaine carrière. Donc du coup, le fait de s'être fixé cet objectif-là, ben on est prêt à se donner les moyens qu'il faut pour accomplir cet objectif-là. Et si leur objectif est d'être plus clair, elles vont user des moyens qui sont à leur disposition pour atteindre cet objectif-là.
Mais ça, justement, c'est bien une notion très différente. Souffrir pour être belle, qui a dit qu'être plus clair, c'était être plus beau?
C'est quelque chose que...
C'est une question de fond. Et puis aussi,
c'est difficile à
être belle dans un premier temps peut-être, ou plus clair, hein, parce que belle, ça se discute, chacun ses goûts. En tout cas, deuxième temps... là, il peut y avoir des lésions qui vont vraiment abîmer le visage, abîmer la peau, docteur Henriette Mello. Et là, on sera plus beau du tout, hein, quels que soient les goûts.
Ça, il faut retenir déjà que la peau claire est une peau plus sensible que la peau noire. Et déjà, on demande de protéger la peau claire chez les sujets blonds en Europe et chez les albinos. Donc, rien que le fait d'être clair, on n'a pas de protection. On n'a pas assez de protection contre les rayons ultraviolets. Et toutes les dermatoses sont plus visibles sur les peaux claires que sur les peaux noires. Et les peaux claires vieillissent plus rapidement que les peaux noires. Donc, cette pratique, il faut que les gens soient conscients que c'est ce qui risque de leur arriver. Et effectivement, comme vous avez dit, les produits naturels, quand les patients reconnaissent qu'ils utilisent des produits dépigmentants, ils disent « Ah non, on utilise des produits naturels ». Je dis « Mais attendez, tous les produits naturels ne sont pas bons ». Il y a des légumes qui sont des poisons, c'est naturel. Donc, il faut savoir que c'est pas parce que c'est un produit naturel que vous n'avez pas des problèmes. Parce que dans la dépigmentation, on a les problèmes, les effets secondaires des produits utilisés, mais on a aussi les effets de la peau claire.
Le curare, la ciguë, c'est des produits naturels et ça tue. À OAF Sissoko, des laits, des crèmes, des savons, tout ça, ça peut être dépigmentant?
Ouais, ça passe par toutes sortes de formes, que ce soit par application directe sur la peau. Donc, je pense à tous ces produits-là, qui sont souvent vendus sous forme de gamme. C'est-à-dire que c'est très, très complet. Après, on a aussi ce qui passe, qui agit à l'intérieur du corps. Je pense aux injections, de glutathion, de vitamine C, des choses comme ça. Ou que les gens ingèrent. Il y a des gélules aussi. C'est des produits vraiment très, très complets, très variés. On va dire par n'importe quel moyen.
Parce que c'est aussi un marché.
C'est ça. C'est
c'est très très lucratif, très très.
Alors quand on parle de ces fameuses piqûres, docteur Henriette Mello, qu'est-ce qu'on nous met dans le corps, enfin qu'est-ce qu'on met dans le corps aux personnes qui veulent changer d'apparence? Qu'est-ce que c'est ces produits en injection? On les trouve où d'abord ces injections et qui les fait?
Ce sont des médicaments, ce sont pas des cosmétiques.
Détournés totalement.
Dont les effets sont utilisés. Donc, les corticoïdes sont injectés, même chez les bébés, maintenant, pour qu'il y ait un teint clair familial. Et vous avez le glutathion qui était utilisé pour soigner des problèmes neurologiques et qui maintenant, quand on regarde les effets secondaires, sont utilisés, mais à la longue, pour dépigmenter. Et à la longue, il y aura des effets secondaires.
C'est-à-dire lesquels, précisément? Qu'est-ce qui a été observé?
Une fragilité cutanée, des problèmes de santé sur le plan général. On a des infections à répétition, des abcès, de l'acné, des champignons qui prennent une ampleur trop importante. Vous avez une faiblesse, une atrophie, un amincissement de la peau qui provoque des hématomes, des troubles de la cicatrisation. Vous avez des vergetures qui sont irréversibles. Vous avez des troubles de la coloration parce que les gens veulent au départ harmoniser le teint, mais à la fin, le teint...
Sont tachetés.
Vous avez cela et vous avez des lésions définitives, l'ochronose et... Au congrès de dermato au Cameroun, on se rend compte que le nombre de cancers de peau augmente. En train d'augmenter.
Alors avant de donner la parole aux auditrices, aux auditeurs, on va s'arrêter, si vous le voulez, sur les origines et quelques explications de ces pratiques.
RFI.
Docteur Alain Froment, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin anthropologue au Musée de l'Homme, directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement. Anthropologie, dépigmentation, au-delà de l'esthétique, il y a des enjeux sociaux, hein, on l'a dit, représentation, appartenance. Est-ce qu'on peut, comment comprendre justement cette envie de changer d'apparence? Est-ce qu'on peut parler aussi de l'importance du mimétisme à certaines personnes de référence?
Oui, c'est une question assez complexe. Il n'y a pas de réponse univoque à la dépigmentation, à ses motivations. On peut dire que c'est une question de distinction, se distinguer dans les deux sens du terme, c'est-à-dire se distinguer des autres et en même temps être une personne distinguée. Pourquoi une personne distinguée? Parce qu'effectivement, il y a des modèles qui remontent à la colonisation, qui sont des modèles d'aliénation. Frantz Fanon en avait parlé en son temps. Mais il y a toujours une attractivité pour l'étranger qui a réussi. Il y a donc une pression sociale, il y a une pression sur les feuilletons en particulier, où les peaux claires sont valorisées. Donc sans parler de haine de soi, on peut considérer que quand même il y a une fascination pour des modèles extérieurs, et puis aussi des stratégies économiques, parce que des personnes foncées pourront se sentir discriminées, et donc en s'éclaircissant, elles vont essayer de raccourcir, de rétrécir un petit peu le fossé, et ça peut être intéressant, en particulier chez les hommes, qui peuvent également se dépigmenter bien moins que chez les femmes, mais c'est une façon de se rapprocher du modèle dominant. Et puis chez les femmes, et je ne leur jette pas la pierre en se dépigmentant, je pense qu'elles sont victimes d'une pression sociale, en particulier d'une pression sociale masculine. C'est-à-dire qu'elles vont devoir développer des stratégies pour se faire remarquer, des stratégies matrimoniales, parce que les hommes vont exprimer des préférences pour les peaux claires. Et donc elles vont suivre ce modèle sans forcément y adhérer, en souffrant, comme l'a dit la collègue, mais aussi parce que ça peut aboutir à une réussite.
Et on le disait tout à l'heure, on parle aujourd'hui surtout de la dépigmentation sur les peaux noires, mais cette pratique, elle existe, docteur Froment, en dehors de la communauté afro-caribéenne. Est-ce qu'on peut dire que la tendance à la faveur de campagnes de prévention, à laquelle on tente de s'associer aujourd'hui dans Priorité Santé, est-ce que ça décroît ou est-ce que c'est en augmentation?
Alors, c'est un vieux problème. Hein. Quand j'étais déjà à Dakar, il y a 35 ans, les dermatologues le... Et en fait, oui, c'est un phénomène assez mondial, en particulier en Asie, hein, dans les régions où les gens ont la peau sombre comme l'Inde. Donc il y a là toute une pression sociale aussi et une fabrication de produits qui sont exportés partout. J'ai même vu récemment, alors c'est un peu anecdotique, mais qu'en Thaïlande, les hommes, comme leur pénis est un peu plus foncé, hein, c'est physiologique que le reste de la peau, ils se font dépigmenter le pénis au laser, donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc ça peut être des considérations esthétiques, d'harmonie de la peau, ça peut être des considérations sociales, et puis la pression... Par exemple, aux Antilles françaises, où il y a une forte tradition de distinction sur la couleur de peau et un fort héritage psychologique par rapport à l'esclavage, eh bien, les femmes ne se dépigmentent pas beaucoup par rapport...
Par rapport à d'autres régions du monde. On est désolé, la ligne vient juste de couper. J'ai même pas eu le temps de vous remercier, mais en tout cas, c'est bien ce que l'on fait maintenant. Merci infiniment pour toutes ces explications, docteur Alain Froment. Je rappelle que vous êtes médecin anthropologue au Musée de l'Homme.
RFI à Douala, 97.8 FM.
Complications, risques associés à l'éclaircissement volontaire de la peau. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nos deux invités en plateau, Awa F. Sissoko de l'association Esprit d'Ébène. Difficulté d'en parler, est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'on a vu, certains des auditeurs qu'on a eu en ligne en préparant cette émission disent, j'ai un ami, j'ai un proche, j'ai une cousine, peut-être que c'est d'eux dont ils parlent. Et puis, d'autres qui disent, je l'ai caché longtemps. Est-ce que c'est un tabou, Awa F. Sissoko?
Je pense que la dépigmentation, au même titre que, enfin, je le mets en parallèle avec d'autres, nous on le traite au sein de l'association, en tout cas comme une sorte d'addiction, au même titre que l'alcoolémie, l'addiction aux jeux en ligne, les choses comme ça, c'est des choses que les gens vont essayer de cacher, parce que ce ne sont pas des choses dont on peut être fier sur la scène publique, et je pense en parallèle avec la chirurgie esthétique, on ne voit pas trop le processus pendant. On voit la personne avant, lorsque l'on l'a connue, et on a la surprise après. Mais c'est vrai que le processus même est dissimulé, on n'a pas trop d'écho quand une personne subit une intervention chirurgicale. Et je pense que pour la dépigmentation, c'est un petit peu la même chose. Quand à partir du moment où on a le déclic, oui, je veux m'éclaircir la peau, donc du coup, on se fournit les produits qu'il faut, et on commence, on va dire, ce régime. Et ensuite, voilà. Des fois, ça ne correspond pas forcément à nos attentes. On a peut-être la peau qui ne réagit pas correctement, entre guillemets, aux produits. Et du coup, on essaye de dissimuler. On n'est pas très fier de ça. On se dit, bon, j'attends de voir. Et du coup, les gens ont vraiment du mal à assumer le fait de se dépigmenter la peau, de vouloir changer de couleur de peau.
Alors, votre association a lancé une campagne dédiée à cette cause, Stop Dépigmentation. Auprès de qui est-ce que vous agissez? Comment ça se passe concrètement?
On essaye d'agir vraiment auprès des jeunes, parce que l'association a pas mal de jeunes aussi. On essaye de viser tous les publics, mais on se concentre beaucoup sur les jeunes, parce qu'on se dit que à construire des jeunes forts, ben du coup ils feront des adultes forts qui eux ensuite transmettront cette force-là aux générations suivantes. Donc on essaye vraiment de sensibiliser. Le but n'étant vraiment pas de stigmatiser, parce qu'on comprend que la pression, tout le monde n'a pas la même force de caractère pour y résister. Et donc voilà, on souhaite vraiment aider les personnes. Pour celles qui voudraient franchir le pas, on essaye de travailler avec des socio-esthéticiennes et des psychologues pour travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi. Et pour ceux et celles qui auraient déjà franchi le pas et qui voudraient arrêter, du coup, on travaille aussi avec des dermatologues, des psychologues aussi, pour un suivi. Et on essaye, voilà, de travailler sur un programme de sevrage pour les personnes qui voudraient arrêter de se dépigmenter, mais qui ne sauraient pas vers quel autre produit se tourner ou quelle routine adopter.
Alors, il y a arrêter, et puis, une fois qu'on a décidé d'arrêter, docteur Henriette Mello, ça veut dire aussi qu'il faut traiter quand il y a eu une dermatose, quand il y a eu justement le développement d'une maladie associée à la prise de ces produits toxiques.
C'est certain. En général, très peu de patients viennent consulter pour demander la dépigmentation. Ils viennent consulter en général pour les effets secondaires de la dépigmentation. Et nous, les médecins, nous sommes obligés de leur expliquer que la cause de leur dermatose, c'est l'utilisation de la dépigmentation, et que même si on donne le traitement et qu'ils poursuivent la dépigmentation, ça ne servira à rien.
On entretient la maladie.
Comme si, ce sera comme un diabétique qui se traite mais qui ne respecte pas l'hygiène de vie. Donc, c'est difficile pour certains patients, sur le plan social, d'accepter d'arrêter. Parce qu'ils nous demandent de leur conseiller des produits, mais dès qu'ils arrêtent les produits éclaircissants, il faut qu'ils sachent que qu'ils mettent les produits ou pas, la peau va s'assombrir. Et dès que vous leur conseillez une nouvelle crème, ils accusent cette crème de les noircir.
Ils ne comprennent pas que c'est la fin du processus de dépigmentation.
Exact. Et donc, ils reprennent. Parce que l'entourage leur pose des questions. Mais comment tu as changé de teint? Qu'est-ce qui ne va pas? Et si psychologiquement, ils ne sont pas prêts à supporter ça, ils vont reprendre la procédure.
On va tout de suite donner la parole à nos auditeurs, justement, pour des témoignages et des questions.
Priorité santé sur RFI.
Et en ligne d'Abidjan, c'est Elisabeth qui est avec nous, donc de Côte d'Ivoire. Elisabeth, bonjour.
Bonjour Caroline.
On est à votre écoute, allez-y.
D'accord, c'est surtout pour un témoignage parce que j'ai pratiqué la dépigmentation artificielle. Quand j'étais dans le second cycle, première terminale, on était en 2008-2009, eh bien j'avais une amie qui était très proche, qui était belle, qui était adulée par les hommes. J'ai envie de le dire comme ça. Et donc, dans notre entourage aussi, je vais dire que c'est culturel. Les gens disent que les femmes qui sont belles, ce sont celles qui ont le teint clair, ce sont celles qui sont charnues, plantureuses, ce sont celles qui ont peut-être de longs cheveux, qui mettent de longues mèches. Et donc, moi, j'ai dit, mais comment je fais pour être aussi belle et pour qu'on m'admire? Voilà. J'ai demandé ce qu'elle mettait comme produit, ce qu'elle mettait comme cosmétique sur sa peau. Et elle m'a donné des conseils. C'est ainsi que j'ai fait des achats de produits, j'ai envie de dire bon marché, certainement nocifs, que j'ai commencé à appliquer sur la peau. Et donc j'ai une amie qui m'a vue un jour et qui m'a dit, mes amis me demandent si tu es malade, parce que tu as le visage qui est tout clair, et puis le reste de la peau ne suit pas, et que ce serait bien que ce soit uniforme. Et donc là, c'était plutôt un encouragement que j'avais reçu. Et je cherchais à appliquer le produit qu'il faut sur toute la peau pour que finalement le teint soit uniforme.
Elisabeth, excusez-moi, Elisabeth, oui. Ça veut dire que vous aviez un savon pour au moment de la douche? Comment ça se passait? Puis j'ai une autre question. Vous les achetiez où, ces produits?
Au marché.
Après la douche, vous appliquiez sur l'ensemble de votre corps une lotion, un lait par exemple?
Des tubes, on appelle ça des tubes, voilà, c'est comme des crèmes, et puis on faisait aussi des mélanges et tout ça.
Mélange maison, petite chimiste à la maison pour faire vos propres produits.
Sans rien savoir, rien des conséquences.
Sans rien
on
savoir.
On nous dit peut-être ce produit-là il est bon, cet autre produit il est bon, et puis on assemble la chose parce qu'on se dit que si c'est bon, quand on va tout mettre ensemble, il y aura un résultat satisfaisant.
Vous disiez tout à l'heure, ça c'est votre passé, qu'est-ce qui vous a fait arrêter? Qu'est-ce qui a sonné comme un déclic?
Je ne saurais le dire, mais à un moment donné, je me suis dit, mais c'est un peu quand même, c'est pas intelligent de le faire parce que si on le fait, par exemple, pour les hommes, de toutes les façons, ils font ce qu'ils ont envie de faire. On dit généralement qu'on est insatisfait, on est insatiable. Et donc, pour moi-même, quelle image je veux renvoyer de moi, quelle image je veux donner de moi, je me suis dit, mais il faut que je m'accepte et il faut qu'on m'accepte telle que je suis. Sinon, je n'ai pas de valeur finalement. Et donc, je vais dire que peut-être que j'ai commencé à réfléchir, que j'ai mûri peut-être.
Et quand votre corps et votre visage ont retrouvé leur teinte naturelle, leur teinte d'origine, ça s'est passé comment?
Je veux dire qu'à un moment donné, je me suis trouvée plus foncée qu'avant. J'avais le teint plus foncé. Et donc, c'était un peu compliqué. J'avais même eu des démangeaisons, des éruptions cutanées, je pense, mais je n'ai jamais fait le rapprochement, en fait. C'est maintenant que j'y réfléchis, peut-être que c'était lié. Voilà, mais bon, j'ai laissé la chose passer comme ça, puisque je me suis dit, c'est pas intelligent de continuer. Et on prend de l'âge, il faut qu'on soit des exemples pour les autres, pour nos petits frères et nos petites sœurs et tout ça. Et donc, j'ai arrêté comme ça, juste comme ça, parce que je pense que j'ai commencé à réfléchir un peu mieux.
Et vous faites passer le message maintenant dans votre entourage?
Bien sûr, je fais beaucoup de sensibilisation à propos. Et j'étais allée même à une institution là, quand j'ai remis ma carte nationale d'identité, le monsieur m'a dit, mais c'est sûr que c'est vous là. J'ai dit oui, il dit, mais vous étiez claire de teint. Je l'ai dit à ça, je me dépigmentais et j'ai arrêté. Je l'ai dit à voix haute devant tout le monde pour que le message passe aussi en même temps.
C'est un très beau témoignage, Elisabeth. On vous remercie beaucoup de cet appel d'Abidjan. Très bonne journée à vous en Côte d'Ivoire. On va partir pour Kinshasa, la République démocratique du Congo, avec Arnold qui est en ligne avec nous. Bonjour Arnold.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, le docteur Mélo est à votre écoute, allez-y.
Oui, je voudrais savoir, poser la question à Madame Henriette, parce qu'il y avait, il y a un problème qui est la peau. Il y avait un moment quand j'étais encore gamin, et j'avais une très belle peau là. Et après un moment, à l'âge de la puberté, il y a eu des boutons qui ont commencé à sortir sur le visage. On m'a proposé certains produits, mais ces produits-là ont commencé à être... Après un moment, j'ai continué, mais je me suis retrouvé que ça n'allait pas. Après, j'ai arrêté. On m'a dit que non, quand tu seras adulte, ça va s'arrêter, des histoires comme ça. Mais aujourd'hui, à l'âge adulte, on a toujours les boutons, tous les produits qu'on me propose ne fait que dépigmenter la peau. C'est pourquoi je veux savoir s'il y a un autre remède, quels sont les produits qu'on peut utiliser pour avoir gardé sa teinture normale et qu'il n'y ait pas aussi des boutons.
Alors, question d'Arnold, très importante, hein, docteur Mélo, qui souffre a priori d'acné, ces boutons qui arrivent au moment de la puberté. Les crèmes qu'on met sur le visage peuvent changer la couleur de la peau, ce qui fait que c'est assez disgracieux. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Arnold ?
Il faut déjà savoir que l'acné doit être traité par des médicaments. Donc, ils nous disent à peu près les médicaments qu'on lui a proposés, parce que les médicaments, ce n'est pas les cosmétiques. Et en général, les conseils qu'on donne, ce sont des produits éclaircissants pour traiter les boutons. Et ça aggrave l'acné. Et chez les adultes, à partir d'un certain âge, quand une patiente vient pour de l'acné...
La cause, c'est la dépigmentation et pas l'inverse.
C'est une des causes. Une des causes. Et quand on l'interroge, lors de l'interrogatoire, elle nous donne le nom...
Du produit,
des laits et des savons qu'elle utilise. Et grâce à Internet, des fois, on tape.
Et on voit.
Et on lui explique que, comme vous voyez là, c'est éclaircissant. Et là, tant que vous utilisez ça, ce qui sera intéressant, c'est de savoir quel savon et quel lait il utilise. Parce que le traitement de l'acné, c'est un traitement classique. C'est la cause la plus fréquente de consultation
en dermato.
Et si on traite normalement, il n'y aura pas de problème.
Arnold, c'est quoi vous avez en tête, par exemple, le nom d'un ou deux produits que vous avez utilisés contre votre acné qui a eu cet effet de dépigmentation, de décoloration?
Les produits comme les de beauté.
Comme médicaments et comme les de beauté.
Oui.
Les de beauté, oui.
Donc, vous utilisez du lait de beauté contre l'acné?
Oui.
Donc, le lait de beauté, c'est pas un traitement contre l'acné. Ça n'a pas été donné par un dermatologue.
On m'avait proposé ça juste par quelqu'un là, parce qu'il y avait des prescriptions qui disaient que non, ça traite aussi les boutons.
Ce prescripteur, Arnold, excusez-moi de vous interrompre, ce prescripteur que vous désignez comme tel, ce n'est pas un médecin, c'est quelqu'un dans la rue ou quelqu'un de bon conseil qui n'a pas forcément eu justement de bons conseils.
Donc, il faut aller voir le dermatologue.
Exactement, c'est la réponse. C'est la réponse de la dermatologue à l'auditeur.
Qui va vous prescrire des médicaments et puis vous conseiller d'utiliser des produits qui n'auront pas d'effet secondaire.
En tout cas, on peut dire, docteur Mélo, qu'on n'a jamais vu un traitement dermatologique qui s'appelait lait de beauté. Non, ça n'existe pas.
Ça accompagne.
Voilà, ça va être en cosméto.
Ça peut accompagner, mais c'est pas le traitement de fond.
Mais à la limite, il y aura marqué lait hydratant, il y aura marqué lait apaisant, lait peau sensible, mais pas lait de beauté. C'est un jugement de valeur, la beauté. En général, c'est pas médical. On vous souhaite une très bonne journée, Arnold. Très bonne journée à Kinshasa. On part pour le Sénégal, pour Saint-Louis, où nous sommes en ligne avec Radi Diétou. Bonjour.
Bonjour, Caroline.
On vous écoute. Allez-y.
Moi, je voulais juste participer à l'émission pour sensibiliser un peu mes compatriotes quand même et tous ceux qui utilisent des produits pour se dépigmenter.
Allez-y.
Parce que j'ai constaté qu'en général, la dépigmentation, tout le temps, pratiquement, a des conséquences vraiment désastreuses. Surtout, pas seulement sur la personne en tant que telle, sur sa peau, mais aussi des conséquences sociales. Parce qu'on constate que si vous vous dépigmentez et que plus tard, vous avez des plaies, des choses comme ça sur la peau, vous êtes en quelque sorte rejeté par la société. Alors qu'au début, on le faisait peut-être pour plaire à quelqu'un. Par exemple, ses amis qui vont... pousser la personne à se dépigmenter, pour être plus clair, pour être plus, comme on dit, avec son temps, pour faire partie du temps, comme on dit ici. En général, ces mêmes personnes vont vous rejeter parce que plus tard, vous avez des plaies, des hématomes sur la peau, des choses comme ça. C'est pas joli, vraiment.
Donc, c'est une forme de stigmatisation des personnes qui ont été, on va dire, abîmées par la dépigmentation. Au début, on encourage pour avoir ce soi-disant teint uniforme. Et puis après, quand on a forcément des lésions, eh bien, on se sent rejeté parce que on souffre de choses qui sont finalement pas très jolies et difficiles à soigner. Docteur Mello, c'est ce que vous voyez vous aussi, des personnes qui se sentent exclues à cause de ça?
Il y a un impact psychologique qui n'a pas de nom. Il y a des femmes qui pleurent parce qu'elles n'arrivent plus à se déshabiller devant leur compagnon. Parce qu'elles n'ont plus le teint uniforme, elles ont des boutons, elles ont des vergetures, et vraiment, ça a un impact sur la qualité de vie.
Ben, merci beaucoup, hein, Khadija Etou, pour ce témoignage. Quelque chose de très important, justement, de bien comprendre que les effets peuvent être durables. Et même dans certains cas, docteur Mello, est-ce qu'on peut même parler d'effets irréversibles? Vous avez parlé tout à l'heure de maladies systémiques, hein, comme le diabète, comme l'hypertension. Là, on met en cause les produits à base de corticoïdes. C'est bien ça? Comment ça se passe? Comment, en se dépigmentant la peau, on peut finalement, quelques années plus tard, avoir du diabète, c'est quoi le lien entre les deux?
Ben, les corticoïdes, c'est un médicament, et un médicament traverse la peau et entre dans le sang. Et parfois, les malades utilisent des injections de corticoïdes. Et en utilisant les corticoïdes, on donne des conseils pour prévenir les reins, le sucre, etc. Mais quand vous utilisez ça à la longue, une des complications, vous aurez le diabète, vous aurez l'hypertension, vous aurez une fragilité cutanée, parce que même les corticoïdes, nous les dermatologues, quand on prescrit les corticoïdes aux patients, il y a un certain taux qu'on ne peut pas dépasser chez les enfants, parce que ça fragilise la peau.
En plus, on le met souvent de façon localisée, et puis voilà. Après, on arrête par palier. Il y a tout un tas de protocoles.
Il y a tout un tas de protocoles.
En tout cas, on ne s'enduit jamais de corticoïdes.
Sur
ça
tout
ne se
le
fait
corps.
Pas.
La peau est l'organe le plus grand, et quand vous appliquez ces produits-là sur tout le corps, et sur une longue durée, vous aurez des complications rénales, même l'hypertension, des complications oculaires pour certaines...
Des risques graves. Voilà. On va prendre un autre témoignage. On part au Niger, Niamey. Giovanni, en ligne avec nous. Bonjour Giovanni, on vous écoute.
Bonjour Caroline, bonjour aux invités sur le plateau.
On écoute votre témoignage, allez-y.
Voilà, donc c'est un témoignage personnel. En réalité, je suis un jeune garçon et j'ai 24 ans. Donc je suis issu d'une famille où tout le monde est clair naturellement. Donc à la base, je n'avais aucun problème de peau, aucune dermatose. Donc depuis 4-5 ans, pour des raisons, bon, je disais, je vivais au Bénin, donc c'est un climat qui est bien, un beau climat, pas de soleil. Donc j'avais un teint clair caramel en fait. Donc depuis 4-5 ans, pour des raisons professionnelles, je suis à Niamey, au Niger. Donc, au bout du temps, j'ai constaté que j'ai commencé par bronzer, j'ai commencé par noircir. Donc, parce qu'il y a beaucoup de chaleur ici, beaucoup de soleil, la température qui s'avoisine à 41-42 degrés, il fait excessivement chaud. Donc, comme j'ai constaté que j'ai commencé par bronzer, pour donner un peu d'éclat à mon teint, sous aucune prescription médicale, sous aucune prescription. Donc, j'ai commencé par utiliser des lotions, des pommades, décapants, en fait. Donc, au début, ça marchait, j'ai retrouvé mon teint. Mais depuis 2 ans, j'ai constaté une disparité.
Dans ce que vous me dites, Giovanni, excusez-moi de vous interrompre, d'abord, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que vous me dites qu'au Bénin, il n'y a pas beaucoup de soleil. Il y a quand même pas mal de soleil au Bénin. C'est sûr que ça doit taper beaucoup plus au Niger. Mais pourquoi, dans ce cas-là, pour ne pas foncer au soleil comme toutes les peaux un petit peu claires, vous n'avez pas mis simplement un écran total pour empêcher votre peau de foncer plutôt que de choisir de l'éclaircir? Il y a des moyens de prévention. Et ça coûte pas forcément plus cher dans ce cas-là, parce que quand on investit dans un produit éclaircissant, c'est qu'on est prêt à y mettre un certain budget. Donc ça veut dire qu'on pourrait mettre ce budget dans la prévention, mettre une crème de protection solaire.
Voilà, bon, là, je n'étais pas informée.
D'accord,
pour
problème d'information. D'accord.
Solaire. Ok. Donc voilà. Donc,
et maintenant, vous en êtes où, Giovanni? Vous avez arrêté?
Depuis 2 ans, 1 an et quelques, j'ai arrêté parce que j'ai constaté que les produits ne marchaient plus. Mon visage est foncé, est bronzé. Quand je me déshabille, il y a tout mon corps qui est clair, mais c'est le visage qui n'est pas uniforme avec mon corps. Donc, j'ai des problèmes d'éruption cutanée, toujours des acnés, des boutons, des démangeaisons. Donc, ce que je voudrais, parce que j'ai décidé volontairement d'arrêter, parce que déjà pour un garçon, j'ai pris conscience, ce n'est pas bien dans notre environnement, notre milieu, déjà la mélanine, c'est une couche importante.
Oui, Giovanni, c'est pas bon pour les garçons, c'est pas bon non plus pour les filles. Hein. Je dis ça, c'est bon pour personne. Juste, docteur Mello, on peut dire à Giovanni ce fameux conseil, s'il veut ne pas subir les rayons du soleil, puisque lui, c'est une question de réaction au soleil, il y a des produits pour ça.
Oui, il y a des protections solaires pour tout le monde. Et même pour les gens qui traitent l'acné, on leur demande une protection solaire. Et il faut savoir que toutes les zones qui sont exposées au soleil sont plus sombres que les zones qui ne sont pas exposées, parce que le corps se défend en bronzant.
Donc c'est naturel.
C'est une protection.
Donc c'est ça la réponse qu'on peut vous faire, Giovanni. On vous souhaite une bonne journée au Niger. Il nous reste peu de temps, mais j'aimerais entendre le témoignage de Mariam, parce qu'il est très intéressant. Mariam, bonjour, vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on vous écoute.
Bonjour Caroline, moi c'est Mariam, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors, faut dire que moi, je suis née noire, j'étais un bébé noir. Au quartier, on m'a surnommée Pou. Au primaire, on me disait que j'étais plus noire que le charbon. Du coup, j'ai grandi en ne m'aimant pas assez. Et il faut dire qu'à l'âge de 17 ans, j'ai décidé de m'intéresser aux produits éclaircissants. Et là, j'ai pris un produit à base d'hydroquinone. Après 2 à 3 mois d'utilisation, mon teint a perdu son effet. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ma maman a remarqué que j'étais devenue un peu plus sombre, mon teint n'était plus éclatant. Voilà, c'est le mot. Et donc, j'ai décidé d'arrêter et je fais plus attention maintenant aux produits que j'utilise. Là, j'utilise les produits naturels sans hydroquinone. Je vais terminer mon témoignage en disant que pour moi, la meilleure manière de lutter contre la dépigmentation, c'est d'apprécier les femmes noires à leur juste valeur et de cesser de faire croire que la beauté, être plus claire, est un critère de beauté.
Que la beauté est liée à la couleur, ça n'a strictement rien à voir. On l'a bien compris, Maria. Merci beaucoup pour ce témoignage. Dernière partie de cet échange, ce gros plan sur la dépigmentation. On perçoit toutes les retombées sanitaires, les risques, les effets secondaires, les complications. Mais on perçoit aussi l'impact psychologique, l'estime de soi. Docteur Mello, est-ce que dans votre consultation en dermato, justement, il faut prendre tout ça en compte? Parce que ce qu'on entend aussi, Mariam, qui se faisait, on va le dire, insultée quand elle était enfant. On dénigrait sa couleur de peau, c'est quelque chose d'épouvantable quand on est petit pour se construire. Il y a des adultes aujourd'hui qui ont besoin d'entendre « tu es beau, tu es belle comme tu es ».
Oui, on a la prise en charge psychologique est très importante et les dermatos doivent s'en charger parce que même pour poser le diagnostic, il faut que la personne accepte que ce qu'il vit, c'est les effets des produits, des pigmentants, et il faut qu'il accepte lui-même les effets quand il va arrêter. Tant qu'il n'acceptera pas, il n'y aura pas de solution.
Vous disiez tout à l'heure à OFC Soko, certains le cachent. L'important, c'est justement d'en parler. On peut même passer par des groupes de parole pour réapprendre à s'aimer tel qu'on est.
Au sein de l'association, on a mis en place depuis 1 an à peu près des ateliers de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on convoque un groupe restreint, environ 10 à 20 personnes. On essaie de mobiliser différents intervenants. Donc, comme on l'a dit, des psychologues, socio-esthéticiennes, des esthéticiennes même, parce que beaucoup, comme on l'a vu à travers les témoignages, ont juste des problèmes locaux de peau, mais ne savent pas comment y remédier et n'ont pas le réflexe d'aller voir des personnes spécialisées pour ces problèmes-là. Ils décident de s'auto-médicamenter et du coup, on arrive à ce genre de résultat-là. Donc, on fait intervenir des personnes à tous les plans concernés par rapport à la dépigmentation, pour un petit comité, recueillir les impressions des personnes. Est-ce que vous saviez que ceci, que cela, comment vous vous percevez? Est-ce que le regard que les gens portent sur vous est important? Parce que comme on l'a dit, la confiance en soi, c'est quelque chose de très très important. Beaucoup recherchent l'aval des autres et se font, pour eux, être acceptés dans la société, c'est être acceptés par les autres.
Alors l'action des médecins, on l'a vu, l'action des associations avec vous. Docteur Mello, j'ai envie de dire, et les pouvoirs publics, Il y a des législations qui ont été prises, certains pays ont officiellement interdit, mais on sait très bien que l'essentiel se passe sur le circuit informel. Tout à l'heure, les auditeurs le disaient, sur le marché, hein, on va au marché.
Mais pas forcément uniquement sur le circuit informel.
Ouais.
La publicité sur les plaques dans les carrefours, dans les télés, dans les médias, etc. C'est des produits éclaircissants.
Et on trouve en institut, en boutique, etc.
Oui, partout. Et quand les patients vous disent, non, moi j'ai vu ça à la télé. Donc, s'ils voient ça à la télé, c'est que c'est un bon produit. Il n'y a pas de... Je pense que nous devons sensibiliser les autorités pour qu'ils mettent en place une règlement, le respect des règlements, parce que on a fait des études où on montre que même ce qui est écrit sur les médicaments, c'est
faux.
C'est pas conforme.
Donc, il y a des fraudes, il y a de la fraude.
Voilà.
Et il y a aussi des lois à changer. Par exemple, il y a une directive européenne qui autorise les laboratoires à produire des cosmétiques à base d'hydroquinone sur le territoire français, du moment que c'est vendu à l'extérieur. En gros, c'est pas bon pour les gens qui résident en France, mais c'est bon pour l'extérieur. Donc, c'est des choses vraiment à changer.
Ben, si votre pays accepte des produits qui sont qui provoquent des problèmes à leur population, c'est eux qui doivent décider.
Donc, aussi ça avec montre quand même le côté lucratif de ce marché-là, étant donné qu'on est prêt à interdire à sa population d'utiliser certains produits, mais qu'on s'autorise quand même à les vendre à l'extérieur. Donc, c'est pas bon pour nous, mais c'est bon pour les autres.
Avec aussi, AWEF Sissoko, hein, c'est un peu une dernière conclusion, certains personnages publics, certaines stars, comme on dit, qui continuent d'entretenir le mythe de la beauté claire.
Ouais. Il y a pas mal de célébrités qui entretiennent, on en a vu, qui sont passées de couleur ébène, je veux dire, à, comme il a dit, clair caramel. Et du coup, beaucoup, voilà, adultes, ces personnes-là, on les voit se produire, vivre leur meilleure vie sur les réseaux sociaux, à la télévision. Et chacun aspire un peu à briller de son passage sur Terre. Donc, je se dis, moi aussi, je veux profiter de la vie pareille qu'elle. Donc, du coup, je me donne les moyens, je me renseigne sur les produits utilisés et j'essaye de me les fournir. Il y en a même certains qui ont sorti des gammes.
Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait de très, très, très nombreux effets secondaires. Mmh. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission, docteur Henriette Mello, dermatologue vénérologue au Centre médical des roseaux à Douala au Cameroun. Merci à vous, Awa F. Sissoko de l'association Esprit des Mènes. Mot de la fin, c'est un auditeur sur notre page Facebook, Osana, qui réside au Tchad. Il explique: on s'est séparé avec ma petite amie à cause des produits qu'elle utilisait pour la dépigmentation. Ces produits dégagent une odeur que je déteste. De plus, le coût n'est pas du tout économique. Voilà, c'était le mot de la fin.
Priorité santé sur RFI.
Et on évoque à présent l'opération Septembre en or, mois dédié au cancer de l'enfant et de l'adolescent, opération à l'initiative de l'Institut Gustave Roussy. Gustave Roussy, dont vous êtes chef du département de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent. Docteur Dominique Valtokouanet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous avant d'évoquer les événements qui vont jalonner ces quatre semaines d'opération, hein, ce mois de septembre. On revient sur les chiffres de la maladie, si vous le voulez bien. Le cancer de l'enfant, c'est 2500 nouveaux cas par an en France.
Oui, c'est environ 2500 enfants, adolescents et jeunes adultes qui vont avoir un cancer dans cette période. Ça fait peu d'une certaine façon, mais c'est beaucoup. Et c'est beaucoup aussi parce que c'est la première cause de mortalité des enfants après l'âge de 1 an. Et donc c'est pour ça que c'est reste un enjeu majeur de santé publique.
Enjeu de santé publique, ces cancers pédiatriques, toujours douloureux d'en parler, mais on pointe aussi les progrès très importants du côté de la prise en charge, des traitements, du suivi, ce qui a permis une augmentation très notable, hein, docteur Valtokouanet, du nombre, du taux de survie des jeunes malades.
Oui, en effet, les taux de guérison sont à l'heure actuelle de 83%, ce qui est très bien, ce qui représente des progrès énormes quand on voit ce qu'était la survie de ces patients dans les années 50, quand le premier centre de cancérologie pédiatrique a été créé à Gustave Roussy, où les taux de survie étaient à 20%. Donc d'énormes progrès, mais encore des progrès à faire, et c'est pour ça qu'on se bat et qu'on participe à ce mois de septembre en or.
Avec certains cancers qui restent particulièrement résistants.
Oui, en effet, il y a des tumeurs qui restent incurables, et en particulier les gliomes infiltrants du tronc cérébral, qui est une partie du cerveau très stratégique. Et quand la tumeur est placée à ce niveau-là, malheureusement, c'est une situation qui est constamment incurable. On ne sait pas guérir ces enfants. Et là, il y a beaucoup de travail à faire.
Beaucoup de travail à faire, de sensibilisation et bien sûr pour la recherche. Alors, Septembre en or, docteur Dominique Valtocoines, c'est également l'occasion de susciter, de mobiliser cette générosité du public pour financer la recherche. Il y a des opérations, il y a des appels, il y a même des défis sportifs.
Oui, il y a de multiples opérations durant septembre. La Fondation Gustave Roussy pour la pédiatrie est très active dans ce domaine. Et samedi dernier, il y avait une course à la Tour Montparnasse, une course verticale qui a beaucoup mobilisé. D'autres manifestations existent. L'Étoile de Martin, une autre association, faisait courir ses participants dimanche dernier. Et à la fin du mois, l'association Machine for Margot va aussi susciter un événement de course au Bois de Boulogne pour toutes ces associations, mobilise des fonds pour la recherche contre le cancer.
Merci beaucoup, docteur Dominique Valtocoines. Je rappelle que vous êtes chef du département de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent à Gustave Roussy. Nous sommes toujours avec le docteur Henriette Mello. Tout à l'heure, on parlait de la dépigmentation. On a une question d'un auditeur de Mbujimaï, Adolphe. Est-ce que l'hydroquinone peut causer un cancer de la peau? Tout à l'heure, vous disiez augmentation du nombre des cancers de la peau. C'est quelque chose que vous constatez en consultation?
Oui, l'hydroquinone est le premier produit qui est officiellement interdit. On doit utiliser jusqu'à un certain taux. Et malheureusement, c'est le plus utilisé.
Donc le message, c'est... On peut éviter certains cancers quand on n'utilise pas certains produits aussi. C'est quelque chose que vous faites passer à vos patients?
La prévention, oui. La prévention, c'est ne pas utiliser l'hydroquinone sur une certaine durée. Parce que l'hydroquinone de 2%, c'est pour les petites tâches que c'est prévu.
Encore une fois, ce détournement des médicaments qui est très dangereux. Merci beaucoup, docteur Mello. Sujet de la dépigmentation de la peau dont on a parlé aujourd'hui dans Priorité Santé. Awaev Sissoko, si on voulait donner un dernier message à celles et à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Quelqu'un qui arrive, une jeune fille qui dit aujourd'hui, j'ai envie de changer d'allure, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous lui dites?
On lui demande déjà pourquoi. Pourquoi tu veux changer d'allure? Qu'est-ce qui te motive à changer d'allure? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez confiance en toi, que pour toi tu n'es pas assez bien pour faire ta place au sein de la société? Voilà, on essaie vraiment de discuter avec la personne, parce que tout se passe au niveau psychologique d'abord, parce que c'est d'abord un état d'esprit, et ensuite ça se traduit par des actions au quotidien. Mais voilà, on essaie vraiment de discuter avec les personnes, de savoir pourquoi, et d'essayer de les aiguiller vers les personnes les plus adéquates pour leur délivrer les meilleurs conseils. Mais voilà.
Et ce message de prévention qui est très important, ne pas commencer, ouais. Parce qu'on l'a bien compris au cours de cette émission, c'est très compliqué d'arrêter. Ouais. Merci beaucoup à toutes, merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Demain, nous allons parler de celles et de ceux qui, chaque jour, soutiennent leurs proches face à la maladie, les aidants. Quel est leur rôle? Comment sont-ils perçus? Si vous avez un témoignage, 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sunway Assurance, qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunway Assurance, notre métier, l'assurance.